18h-19h, Tribune Nord, Sylvain Charlet, sur France Bleu Nord.
Absolument, il y a un... Bonsoir Sylvain d'abord.
Bonsoir à tous, bonsoir Philippe.
Il y a un beau programme, j'ai cru comprendre qu'il y a, il y a des réjouissances dans l'air.
Un mauvais week-end.
Pas pour vous parler de, du foot.
Bah, Lens a sombré à Metz.
Ouais, Lens, alors j'ai vu.
Valenciennes est en national.
Ouais.
Dunkerque a perdu.
Ouais.
Le SBVA est pas championne d'Europe. Bon, enfin, c'est la catastrophe.
Lille, ça va.
Bah, Lille a pas joué.
Oui, mais donc Lille, ça va.
Non, Lille, ça va.
Ça va, il n'y a pas eu de match.
Non, ça va jouer jeudi. On les a préservés, donc voilà.
Bon.
On va parler de tout ça ce soir.
Ouais.
On sera donc, on le disait à l'instant, avec Rachid Méziane, le coach de l'ESBVA. On va faire une passerelle entre le foot et le basket.
Très bien.
On sera également avec Enzo Bardelli, le petit meneur de jeu de Dunkerque, qui pourrait lui, pourquoi pas, disputer les jeux. Ça part un peu de loin, mais voilà. Il sera notre invité également. Et on va débattre. Que faut-il faire à Lens pour se réveiller, se relancer? Et puis, est-ce que Lille va se qualifier pour.
Sixième, toujours là.
Sixième. Bah, heureusement, tout le monde perd.
Ça. Mais c'est une sixième place qui s'en mérite.
C'est un peu par défaut. Mais bon, après, pour l'instant, ils y sont. Ça veut dire qu'ils l'ont quand même mérité avant cela. Et puis, bah, j'ai aussi le ballon.
Mais je compte sur vous pour secouer Lens. Je sais que vous adorez Lens.
Je sais que
vous allez secouer Lens. Et puis, le ballon a gagné, vous l'avez dit.
Exactement. Le ballon Kipsta Décathlon a gagné. On vous pose la question de sélection dans une vingtaine de minutes. Et tiens, d'ailleurs, parmi nos experts, David Duquesnoy, ancien joueur pro de Kipsta Décathlon. Salut David.
Salut tout le monde.
Bon, on rassure les gens, le ballon c'est un vrai, valeur 80 euros. Là vous êtes encore allé le tester dans les clubs, vous étiez où là ces jours-ci?
Alors oui, on a fait depuis, on a fait 5 clubs déjà. La semaine dernière on a fait Toulouse, Angers et Brest. Ça a eu des fortunes diverses, puisqu'il y a eu des victoires et des défaites. Voilà.
Mais c'est pas la faute du ballon.
Ouais. Non, le ballon est très très bon, on a des très bons retours. Et là on enchaîne ce soir avec Paris, demain matin, Paris FC. Donc on part là juste après, c'est pour ça qu'il y a Florian et, et Vincent.
Je pensais que vous étiez chez Mbappé demain.
Non.
Ils ont match un peu.
Ouais, et puis,
ils auront match là.
Ouais, là c'est compliqué. Ouais, Paris FC, on va être un peu plus accueillis plus facilement.
Et vous êtes avec l'équipe en fait.
C'est ça. Ouais. Il y a Florian, ingénieur produit, et Vincent, chef de produit sur le ballon. On se déplace toujours ensemble et c'est toute l'équipe un peu de conception. Alors il y a encore plein de monde derrière nous sur le ballon, mais bon, voilà. On a une petite équipe qui se déplace à chaque fois.
Et on accueille également Olivier Fosseux de la Voix du Nord. Salut Olivier.
Bonjour à toutes et à tous.
Il y a également Léo Marron de France 3. Salut Léo.
Bonjour tout le monde.
Et Mathis Caron de France Bleu Nord. Salut Mathis.
Salut Sylvain, bonjour à tous.
Et on parle du Racing.
Tribune Nord, toute l'actualité des 100 et or, en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
Le Racing qui s'est incliné à Metz.
Attention au pressing messin. Pereira da Costa qui perd ce ballon dans la surface de réparation. Attention à la frappe. Et c'est marqué le doublé pour l'international géorgien.
L'impression qu'on se met le doute tout seul. Alors qu'en effet, je vois les 25 premières minutes, je pense à aucun moment que le scénario qu'on a eu ce soir va se produire. J'ai pas une explication rationnelle. 4 matchs, 3 défaites et un nul, c'est pas anodin. Surtout pas anodin au vu de nos contenus ou même si on a quelques bonnes périodes dans les matchs, mais pour gagner des matchs, il faut pas juste avoir 25 minutes. Vous êtes bien, 25 minutes, que ce soit au début ou à la fin, ça sera toujours trop court.
On le disait à l'instant, Mathis Caron, vous étiez au match. Lens est sixième, Lens est toujours dans le coup, mais ça fait 4 matchs sans succès. Est-ce que Lens peut tout perdre d'ici cette fin de saison? On commence vraiment à s'inquiéter.
Je pense que oui, Lens peut tout perdre. Déjà devant, je pense que c'est fini, c'est trop loin maintenant. Il y a quelques semaines, ça paraît
la Ligue des Champions. Les 4 premières places.
Je pense que ça ira pas beaucoup plus haut que la 6ème place, mais maintenant il faut regarder peut-être derrière. Et il y a des clubs certes qui vont pas très bien, comme Reims qui est maintenu à distance. Bon, après ils ont pas encore joué. Mais Lyon, ils sont à un rythme assez inquiétant en ce moment.
Ils sont à 2 points là, Lyon.
Ils sont à 2 points et surtout ils ont une forme qui est presque insolente. Depuis la trêve, ils sont vraiment revenus dans le coup. Et en ce moment, ils sont, il me semble, à 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Certes, ils ont un calendrier qui est pas des plus cléments, les Lyonnais, mais je pense qu'il faut les surveiller et surtout, Lens doit aussi gagner des points, quoi. On pensait avant le match contre le Havre que il y avait un enchaînement de 3 rencontres qui était très facile et qu'on pouvait faire un 9 sur 9 au niveau comptable avec le Havre, Metz et Clermont qui arrivent. Là, on est à 1 sur 9. Ça se complique. Ouais. Ça se complique. Et
Lyon est derrière à 41 points, Reims 40, Marseille 39, Rennes 39, donc Lens 43, Nice 44 et Lille s'est un peu envolé à la 4ème place à 49 points. Inquiet Olivier, où il y a, comme dans un passé récent, on a vu ces Lensois capables de réagir, de rebondir.
Exactement, c'est une équipe qui est sur une vague, on va dire. Donc quand ça va
plus capable d'enchaîner les résultats, quand ça va moins bien comme en ce moment, elle lâche du lest, elle a grillé des jokers, on va dire. Pour moi, je pense que c'est pas terminé. Le match contre Clermont là va être vraiment charnière pour ce sprint final, mais c'est pas terminé. Voilà, ils sont derrière, ça se neutralise aussi.
Mais
ils ont encore leur chance.
Mais ce qui était quand même intéressant ces dernières semaines, David, c'est que on avait une équipe qui proposait quelque chose. Mais là, il y a quand même des mots forts qui sont utilisés par les joueurs. Alors, est-ce que ça vous inquiète là, vous aussi ou pas? Fulgini après le match qui dit on a été suffisant. Franquès qui dit on manque d'exigence. Comment on explique ça? Vous avez été joueur professionnel.
C'est difficile à expliquer. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans ces cas-là. Mais effectivement, ce qui est plus inquiétant encore que le nombre de points là perdu depuis les deux derniers matchs, c'est surtout le contenu des matchs. On sent des joueurs en retard, des joueurs peut-être même pourquoi pas émoussés aussi. Peut-être qu'il y a un facteur que nous on peut pas connaître. C'est plutôt la fatigue joueur, peut-être mentale aussi. Mais je trouve les joueurs défensivement sont loin de leurs adversaires. On laisse frapper assez facilement. On voit le premier but de Mikotadze, il se retourne mais facilement dans la surface. C'est au début de saison, ça n'arrivait pas.
Exact.
Et c'est ça en fait, moi qui m'inquiète le plus, c'est le contenu des matchs. On voit certains joueurs un peu baisser la tête, on voit des joueurs s'énerver. Ce qu'il y avait pas avant, on sent une première chose que je vois depuis l'arrivée de Franck Hay, c'est que on le sent parfois un peu impuissant aussi. Il a pas les solutions. Donc c'est plutôt ça moi qui m'inquiète et le comment ça arrive. Je sais pas, peut-être qu'aussi en interne, on entend il y a un peu les chaises musicales, la direction. Ouais. Etc. Est-ce que c'est assez sain pour ça donne une sérénité ou pas? Franquès qui redevient coach, voilà, il y a toutes ces choses là, je pense, qui sont en train en ligne de compte. Puis la campagne européenne aussi, qui a peut-être aussi puisé, parce que
exactement,
c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer.
C'est une très très longue saison.
Ouais. Je pense que c'est ça.
Non, mais effectivement, on sent qu'il y a un état d'esprit un petit peu compliqué en ce moment, que ce soit du côté des joueurs. Et moi, ce qui me surprend particulièrement, c'est l'attitude. Vous en parliez de Franquès après le Havre. Il dit on jouera pas la C1, on est à notre place, cinquième position, etc. Alors que finalement, ils sont à un point des places en Europa League et ils peuvent encore jouer les barrages pour la Ligue des Champions. Donc c'est tout un état d'esprit à la fois des joueurs, mais aussi de Franquès.
Comme s'ils avaient lâché un peu mentalement.
C'est l'impression que ça donne en tout cas, alors qu'il reste encore 5 ou 6 matchs de championnat. Moi je trouve ça plutôt surprenant de la part d'un coach. On a l'impression qu'il fait le bilan de sa saison alors qu'elle n'est pas finie cette saison et qu'il y a encore des choses à jouer. Donc j'ai trouvé ça un petit peu surprenant.
Déjà après le derby, il y avait cette phrase sur la qualité de son effectif.
C'était terrible.
Après il s'est un peu repris.
En gros, je fais avec les moyens du bord.
Voilà, moi je suis assez d'avis sur l'histoire de la fatigue mentale. Parce que c'est un groupe qui a très mal commencé sa saison, qui a puisé pour reprendre des points en Ligue 1, tout en devant gérer la Ligue des Champions. Où le parcours est plus qu'honorable quand même, parce que vous sortez du la, enfin vous allez dans la Ligue Europa, voilà. Et puis là peut-être un contre-coup lié, vous arrivez à la fameuse barre des 43 points maintien, le coach qui change un peu ses fonctions, voilà, il y a une petite période de trouble qu'il faut rapidement régler parce qu'il reste quand même 5 matchs.
Ouais, et puis il y a aussi souvent sur les fins de saison, Mathis Caron, les spirales, les enchaînements. Il y a des équipes qui sont dans une bonne dynamique et des équipes qui sont dans de mauvaises dynamiques. Et dans mes souvenirs récents, j'ai l'impression que quand vous êtes dans une mauvaise spirale, c'est compliqué sur la fin de saison d'inverser la tendance. Et la mauvaise sensation que j'ai, c'est que Lens semble être dans cette mauvaise spirale.
C'est clair, et puis peut-être que des joueurs pensent déjà à la suite. Peut-être qu'on en parlera après, mais certains joueurs peuvent peut-être déjà partir. En tout cas, pensent au départ. Il y en a qui ont peut-être déjà la tête à l'euro. Donc forcément, c'est dur de remobiliser tout le monde. Et puis cette spirale négative, elle n'a pas été aussi aidée par le calendrier. On a l'impression que Lens va mal depuis cette élimination contre Fribourg. Ensuite, il y a eu un enchaînement de matchs très difficiles, que contre des gros clubs, des cadors de la Ligue 1. Et depuis, ils ont du mal à sortir la tête de l'eau. Ils n'ont pas eu ces petits matchs faciles pour pouvoir se remettre dans le truc. Là, ils les ont, mais est-ce que c'est déjà trop tard? On se pose la question, quoi. Et en tout cas, le sprint final, il risque d'être très compliqué si Franquès ne trouve pas les mots. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que, en tout cas, en conférence de presse, il a plus de solution. Il a l'air abattu. En conférence de presse à Metz, il est resté peut-être 3 minutes devant les journalistes parce qu'on sentait qu'il n'avait pas d'excuses. Et c'était criant.
Ou après c'est aussi parce que il veut pas aller plus loin. C'est-à-dire que
il se retient.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, après vous balancez des secrets de vestiaire. Et là, il y a encore 5 matchs. J'insiste là-dessus. Après, moi, je suis partagé sur l'histoire des matchs faciles, parce qu'on est sur une Ligue 1 cette année qui est plus réduite. Pour moi, il y a À part Clermont, j'ai pas trouvé non plus d'équipe vraiment, vraiment en dessous. Et donc, vous allez au Havre, enfin, vous recevez le Havre qui a l'écrou parce que chaque point gratté, on l'a encore vu ce week-end, hein, ils perdent à la 93e contre Nantes, c'est un coup dur. Metz, ben, forcément, là, Lens vient de le confronter directement.
Deux matchs de défaite face à Metz.
Voilà, ils perdent 6 points quand même. Alors, évidemment, au moment des comptes, on verra, mais là, vous tombez sur des équipes qui ont vraiment très faim. Mmh. Je veux dire, je sais que Lille doit aller à Nantes, par exemple. Ben, ça va pas être un match facile. Hein, si Lille, même si Lille est deuxième ou troisième à la 33e journée, ils vont aller à Nantes. Ça va être avec Comboiré en plus qui a remis du peps à tout le monde. Ça va être, il y a pas de match facile.
Léo.
Et pour Lens, le calendrier il va être encore compliqué. Hein, vous le disiez dans le sprint final parce que ils prennent deux concurrents directs, Rennes et Marseille. En plus Marseille à l'extérieur et surtout, moi j'identifie un match un peu piège. C'est Lorient qui veut sauver, qui veut essayer de sortir.
Avant dernière journée ou dernière journée.
Avant dernière journée, je crois. Oui, c'est ça. Et ils veulent sortir de la zone des relégables, bien sûr, et sauver leur saison aussi. Et donc, ça va être un match piège. On l'a vu, la Metz, c'est une défaite. C'est à peu près le même type d'équipe, en tout cas, qui joue les mêmes positions au classement que Lorient. Donc, le calendrier, il n'est pas tout à fait simple non plus pour le Racing.
Ouais, on va suivre tout ça dès samedi. Ce sera face à Clermont. Ce sera à domicile. On est réunis ce soir pour débattre. Léo Marron pour France 3, Olivier Fosseux de la Voix du Nord, David Duquesnoy de Kipstad Décathlon et Mathis Caron de France Bleu. On parle du LOSC.
Tribune Nord. Toute l'actualité du LOSC en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
Et le LOSC. Le LOSC en route pour l'exploit battu à l'aller à Aston Villa à Birmingham. 2 buts à 1. Match retour jeudi 18h45. Le corner. Cabella. Le bras levé. Pour la combinaison, c'est frappé. Oh la tête, le but. Bafaud. 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 Oui, Bafaud des Diakités. 2 buts à 1. L'espoir est de retour.
Je m'attends une ambiance exceptionnelle. On va compter sur eux. Le stade plein, qui est fermé. Et on va montrer c'est quoi aussi l'ambiance française. Hein.
Je les invite à être chaud parce qu'on peut, écrire une belle page de ce club. Donc voilà, avec humilité, bien sûr, mais voilà, conscient qu'on a aussi nos chances.
Aston Villa reste le favori. Se qualifier pour une demi-finale de compétition européenne, c'est pas neutre, c'est forcément quelque chose de très difficile. Donc il va falloir être prêt. Il va falloir mettre les ingrédients pour réaliser un exploit.
On a hâte de vivre ça, Mathis Caron. Hein. Pierre Mauroy qui va être plein à craquer. Bah, c'est un match digne d'un derby. C'est pour moi, au niveau européen, la dernière réception de Chelsea en Ligue des Champions. Voilà, jeudi, énorme ambiance pour un match qui peut être historique.
Ouais, et puis ce match aller, certes, le LOSC a perdu, mais au final, ramener ce score d'Angleterre, c'est plutôt un bon résultat, j'ai l'impression, surtout quand on connaît l'efficacité du LOSC à l'extérieur depuis le début de la saison, on sait que c'est très compliqué. Donc, ils nous ont ramené de l'espoir, et aussi, ils ont gagné... Ils vont gagner en confiance aussi avec ce match parce que dans la manière, on va en parler après sans doute, ils ont été exemplaires je trouve. Ils n'ont pas rougi en tout cas face à Aston Villa. Ils leur ont tenu tête. Ils ont presque dominé par moment, même si vu la physionomie du match et cette ouverture de score assez tôt dans le match a pu changer les choses. En tout cas, je trouve que le LOSC s'est rassuré en fait face à Aston Villa. Peut-être qu'ils sont arrivés avec un complexe d'infériorité, mais ils repartent en se disant ah mais en fait on peut clairement les battre.
Ouais, David Duquesnoy, on y croit. Hein.
Ouais, bah, je pense qu'ils ont montré des très très belles choses à l'aller. Après c'est le très haut niveau et on a vu qu'un oubli défensif, une petite erreur et ça va très très vite. Là Aston Villa c'était pour moi le plus gros de la Conference League.
Des quarts de finale.
Quarts de finale.
C'est le favori.
C'est le favori. Lille a montré de très très belles choses. Pour moi, le résultat est pas forcément satisfaisant dans le sens où ils avaient la possibilité de faire encore mieux.
C'est vrai que 2-1, c'est moins. Martinez sort 5 ballons. Martinez, il est dingue dans ce match. Hein.
Ouais. Dingue, manque d'efficacité, c'est dommage. Mais là, ça veut dire aussi qu'Aston va arriver là-bas à Lille en se disant waouh, attention, l'aller, c'était pas si facile. Donc, je pense que ça va jouer. Et puis Lille montre des choses à domicile très très cohérentes, bien en place. Et puis, je pense que pour les jeunes, comme je pense à Lenny Yoro, c'est le genre de match où il faut qu'il montre là qu'il a le niveau pour aller encore au-dessus. Et non, moi je suis très positif en tout cas, je pense que ça peut le faire. Une grosse ambiance, un stade plein, enfin un quart de finale de Coupe d'Europe, même si c'est chaque fois on revient sur la conférence, mais c'est une Coupe d'Europe.
Ah ouais, là, oui, c'est une Coupe d'Europe.
C'est un quart de finale. Donc,
et là, il y a une saveur, Léo Marot, assez particulière quand même. Là, on a envie d'y croire. Là.
Bah, vous en parliez, hein, dernière grosse réception comme ça à Chelsea. Là, Aston Villa, c'est quand même quatrième de Première Ligue. C'est une très très grosse équipe, un gros défi pour le LOSC. C'est possible
vous l'avez dit, mais attention, parce que c'est au LOSC de faire le jeu à domicile. Ils ont un but de retard, et Aston Villa, c'est une équipe, c'est le genre d'équipe qui aime ces configurations-là. On l'a vu, ils ont joué contre Arsenal hier. C'est une équipe qui fait preuve d'énormément de patience, voilà, qui attend, et à la moindre faute, qui exploite et qui termine, qui va jusqu'au but. Hier, ils mettent 2-0 à Arsenal, qui est quand même deuxième de Première Ligue. Donc c'est un très très gros défi. Après, effectivement, dans un stade plein à craquer, on le sait, hein, de toute façon, jouer à domicile, le 12e homme, c'est une Coupe d'Europe, ça peut donner, insuffler quelque chose aux joueurs, et un supplément d'âme qui peut permettre d'apporter la victoire.
C'est ce qui nous avait un peu surpris, Olivier, c'est la stratégie d'Unai Emery lors du match aller. C'est-à-dire que Aston Villa avait abandonné le ballon à Lille, et il y avait 0-0. Là, ils risquent de faire la même chose, mais ils ont un but d'avance.
C'est exactement ça. Et hier, moi, j'ai regardé, parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait contre Arsenal. Et hier, c'est pareil. Ils défendent vraiment très, très bien, en laissant très peu d'espace à un moment où, devant leur surface de réparation, il y avait une sorte de mur que qu'Arsenal a eu énormément de mal à contourner. Et la seule fois où vraiment c'est passé, il y a Martinez qui fait un gros arrêt.
Ah.
Et toujours lui. Ouais, il est même contre les clubs anglais.
Fatigue, lui.
Et par contre, en deuxième mi-temps, ils ont commencé à développer leur jeu en contre. Et là, ça a fait très, très mal. Et il y a aussi, on l'oublie, hier, il y a un poteau et un poteau barre, en faveur d'Aston Villa. Donc, ils ont absolument pas usurpé leur succès contre Arsenal. Ouais. Et donc, mais jeudi, c'est le genre d'affiche dont on raffole tous. Parce que grâce à ce but de Diakité, il y a un petit espoir. C'est le foot.
C'est vrai qu'à 2-0, à 2-0, on s'est dit waouh, c'est mort, et à la 84e, on reprend espoir. Voilà. Mais c'était mérité de les voir revenir à 2.
Complètement, oui, complètement. Après, on évoque qu'est-ce qu'il faut changer jeudi. Ben, il faut juste marquer les premiers.
Exact.
C'est ça la priorité. Que ce soit à la 15e ou à la 89e, tant pis, il faut aller en prolongation. Tant pis si ça dure. Mais il faut marquer les premiers. Je pense que ça se joue là.
David, il faut être patient et clinique.
Là, il va falloir être efficace dans les deux surfaces, que ce soit défensivement, offensivement. Parce qu'effectivement, il y a ce but d'écart. Donc déjà, ben, pas prendre de but, ça sera déjà quelque chose de très bien, tenir le zéro derrière. Et puis oui, devant, c'est une occasion but, parce qu'on a vu encore Martinez, encore lui, a été très bon contre Arsenal, est un très bon gardien. Mais je pense que non, mais il y a la place pour le faire. Lille l'a montré. Ouais, il faudra être patient, pas se précipiter, pas non plus se découvrir, parce qu'ils vont attendre que ça. Ça peut être un match, une première mi-temps un peu fermé, un peu bizarre, parce que les deux équipes, comment on se jauge. Mais effectivement, si par bonheur Lille peut marquer rapidement, je pense que ça changera complètement la physionomie de tout le match.
Mais est-ce qu'on a besoin de marquer rapidement, Mathis Caron?
Finalement, il n'y a qu'un but d'écart. Ouais. C'est pas forcément. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que si le LOSC marque assez vite, je pense que ça peut s'emballer vraiment.
Ouais.
Parce que là, du coup, Aston Villa va se découvrir, le public va être en feu.
Est-ce qu'ils ont besoin de se découvrir à 1-0? Ils sont encore en prolongue. Hein, c'est-à-dire,
c'est les Anglais. Hein.
Ça va être très, très stratégique, hein, Mathis.
C'est sûr, mais j'ai du mal quand même à voir Aston Villa ne pas jouer totalement au Stade Pierre-Mauroy, même s'ils ont un but d'avance. C'est pas fait. Et à voir aussi comment la fatigue joue dans le match. On sait que le LOSC n'a pas joué ce week-end. On sait qu'Aston Villa a beaucoup dépensé hier contre Arsenal. Ils ont lâché la balle, mais ils ont beaucoup couru après aussi. Donc ça va jouer dans les têtes et dans les organismes. Donc je pense que oui, on peut espérer. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une obligation de marquer tout de suite.
Olivier,
vous battez Arsenal, moi je suis pas sûr qu'il y ait une fatigue. Franchement, ça rebooste.
Puis ils jouent tous les 3 jours. Ils sont habitués.
Et puis là, il y a 4 jours. Ils vont arriver tranquillement mercredi. Je suis pas convaincu de l'état de la fatigue.
En tout cas, en première ligue, on n'entend jamais les joueurs se plaindre, on joue tous les 3 jours. C'est vrai que eux, c'est une culture qui est comme ça. Ils ont 40 coupes dans l'année. Enfin, ils jouent tout le temps. Donc, fraîcheur mentale, ils l'auront, parce qu'effectivement, ils sortent d'un. Après, physiquement. Ouais. Ça peut arriver, une petite baisse, mais en tout cas ils joueront, parce que la première ligue, on voit, c'est les équipes de première ligue, ça joue, ça propose du foot, ça va vers l'avant. C'est rare de les voir fermer un peu le catenaccio à l'italienne, un peu à l'ancienne, là où on se fout derrière. Moi, je les vois bien quand même vouloir un peu jouer et faire le jeu et montrer aussi à Lille qu'ils sont supérieurs.
Ah, oui. Ouais. Léo Marron.
Oui, c'est une équipe en plus qui prétend à jouer l'année prochaine la Champions League et qui vraisemblablement devrait se qualifier. Donc si en C3 contre Lille, ils peuvent pas enchaîner les matchs. Moi, je vois pas trop cet argument non plus. Je pense qu'ils sont tout à fait prêts, qu'ils ont une stratégie et voilà, ils vont venir à Lille en conquérant et pour faire le match. Hein.
En tout cas, les Lillois, eux, sont frais, hein, Olivier. Pas de match ce week-end, merci la Ligue.
Oui, ils ont pu s'entraîner tranquillement. Et puis là, logiquement, Angel Gomez va revenir, va récupérer. C'est quand même une bonne nouvelle.
C'est quand même
très bonne nouvelle dans sa façon de de créer du lien entre les lignes. Avec David, il s'entend bien. Il y a, faudra voir un petit peu où en est Zegrova. Mais bon. Globalement, les forces sont présentes.
On est ensemble jusqu'à 19h. Léo Marron pour France 3, Olivier Fosseux pour La Voix du Nord, Mathis Caron pour France Bleu et David Duquesnoy pour Kipsta Décathlon. Et c'est l'heure de vous poser la question. Vous appelez Jeanne au 03 20 55 89 89. Vous pouvez gagner le ballon Kipsta Décathlon, le ballon de la Ligue 1, d'une valeur de 80 euros. C'est le vrai ballon. Et je vous promets qu'il est vraiment parfait pour jouer dans votre jardin ou sur des vrais terrains de foot également. Mais dans le jardin, ça passe aussi. Question concernant Lucas Digne, l'ancien Lillois qui est aujourd'hui à Aston Villa, qu'on va retrouver jeudi à Pierre-Mauroy. Dans quel club que je vais vous citer n'a-t-il pas joué durant sa carrière? Le PSG, le FC Barcelone ou Leeds United? Le PSG, le FC Barcelone ou Leeds United en Angleterre? Vous appelez le 03 20 55 89 89. Dans un instant, on parle basket.
France Bleu présente Où les talents, le grand concours musical 100% Hauts-de-France.
Vous êtes chanteuse, chanteur en solo ou en groupe. Participez à la deuxième édition de Où les talents et devenez la révélation 2024 des Hauts-de-France lors de la grande finale le 11 juin en public à Mégacité Amiens.
Où les talents, l'événement musical et régional 100% Hauts-de-France sur France Bleu.
Infos et inscriptions dès maintenant sur francebleu.fr.
Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr.
Là, vous entendez ? Et les notes printanières de la musique Leroy Merlin se mêlent au chant des oiseaux dans votre jardin. Et c'est beau ! Mais là, quand je dis que le showroom Natérial, c'est 1000 mètres carrés de pergolas, de salons de jardin et de barbecue, là vous vous dites, eh oh, oh, un peu moins fort les oiseaux. Notez bien, le showroom Natérial, c'est à Lille-et-Lem et c'est ouvert tous les jours.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
Il est 18h30, ça tombe bien, on va aller faire un tour du côté de la cellule de vigilance routière. Denis nous attend à la préfecture, hein, Denis.
Effectivement, je suis là.
Ouais, parfait, nous aussi, je reviens vers vous pour faire la synthèse pour nos auditeurs. Où en sommes-nous sur nos routes? C'était très compliqué encore tout à l'heure, hein, il y a une demi-heure.
Oui, effectivement, c'était très compliqué, ça reste encore chargé. On a un nouvel accident sur la rocade nord-ouest cette fois-ci, dans le sens Ouascal vers Anglo, point kilométrique 12 plus 300. C'est avant la sortie Bondu, il me semble, l'échangeur numéro 11. Donc, effectivement, densité depuis l'insertion à hauteur de Ouascal, donc prudence. Après, effectivement, voilà, l'ensemble des accidents sont terminés. Donc, la circulation est en train de reprendre progressivement, mais néanmoins, vous êtes encore nombreux pour sortir de l'île par l'autoroute 1. Les Saint-Gouin de Ronchin, jusque le secteur de Templemar, vous êtes nombreux avec des difficultés à l'arrière, notamment toujours cette nationale 356, voie rapide urbaine, qui reste très chargée dans le sens Roubaix vers Lille, depuis le secteur de Ouascal jusqu'à la jonction de l'autoroute 1, autoroute A25. C'est la même chose pour la nationale 227, sur toute sa longueur, depuis la cour de Babylone jusqu'au tronc commun de l'autoroute A22, A27, commune de Léquin, avec encore une remontée sur la terminaison de l'autoroute A27, commune de Saint-Gand-Mélantois, donc prudence. On note également pour toujours l'autoroute 1, mais cette fois-ci dans le sens Paris vers Lille, pour rentrer sur Lille. Voilà, ça commence à freiner dès le secteur. On est juste après Seclin, de Seclin jusqu'effectivement l'entrée de Lille, donc prudence.
Dans l'autre sens, ça roule.
Ouais, dans l'autre sens, ça roule, effectivement, ça se remet à circuler. Hein. Après la nationale 41, on a encore un peu de monde juste avant le rond-point de Fourlan-Web en direction de la Bassée. Et pour terminer notre tour sur l'autoroute A2, l'accident est terminé autour de Trie-Saint-Léger. La densité de trafic qui est présente depuis le secteur de Soltin dans le sens Bruxelles vers Paris est en train de disparaître. Donc de Soltin, c'est effectivement Trie-Saint-Léger. Voilà, c'est en train de se mettre en route progressivement. Puis pour ce qui est de l'autoroute A21 ou l'autoroute A16, à cette heure-ci, j'ai pas d'incident à vous signaler, ça roule correctement.
Parfait, merci pour le petit tour complet. Merci beaucoup, Denis. Bonne soirée, on se retrouve demain.
À demain.
À demain, avec plaisir.
Il est 18h32. France Bleu Nord, 100% foot. Tribune Nord sur France Bleu Nord.
Merci Philippe. On vous retrouve à... Vous venez pour le quiz ou pas? Est-ce que vous revenez pour le quiz?
Un petit peu de travail, mais je vais vous écouter.
Allez, venez.
Je vais vous écouter
venez.
Quand même. Vous savez, allez, je suis nul en plus au quiz, alors. Bon.
Il porte sur quoi le quiz? Comment?
Il porte sur quoi le quiz?
Il porte sur, je vais vous dire, il porte sur le SBVA, sur Lens, sur Lille. Oh, il y a plein, j'ai trop de questions. Je pourrais pas
mais
tout
là,
faire.
Ça va, j'ai les réponses là sous les yeux. Là.
Bah, bah revenez alors, je vous envoie le document. Allez, on se retrouve d'ici la fin de l'émission avec Philippe. Bon, dans cette deuxième demi-heure, on va parler basket parce que forcément, dans Tribune Nord, on se devait de mettre à l'honneur, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, le SBVA, les filles de Villeneuve-d'Ascq, vice-championne d'Europe. C'est quand même le meilleur club européen de la métropole, donc il faut absolument qu'on en parle. On sera avec le coach, peut-être le meilleur coach du monde. Je suis pas objectif. C'est Rachid Méziane qui nous rejoint dans quelques instants. On va parler également de la deuxième division avec un invité. Là aussi, on va retrouver Enzo Bardelli, le joueur de Dunkerque, toujours en course pour le maintien. Et puis, il sera aussi question de la prolongation de contrat de Medina à Lens.
Tribune Nord, le joueur de la semaine.
Et le joueur de la semaine, c'est le coach de la semaine. C'est Rachid Méziane et les filles de l'ESBVA battues malheureusement hier en finale de l'Euroleague par l'ogre Fenerbahçe.
C'est quand même exceptionnel que pour un match retransmis à la télévision, il y avait peut-être combien, je sais pas, 1000 ou 1500 spectateurs dans le Palatium.
Le Final Four en début de saison, on n'y croyait pas, quoi. Donc on peut rien leur reprocher sur la campagne européenne. C'est quand même fabuleux ce qu'elles ont fait, quoi.
L'ESBVA, c'est notre vie et leurs résultats dépendent aussi sur nos sentiments et sur notre vie. Et là, j'avoue que ça me met de mauvais poils, ça rend triste.
Ça donne envie de revenir, bien évidemment. Mais là, on est tombé sur plus haut que l'Everest encore.
Voilà, vous avez entendu les supporters hier réunis au Palatium, un peu plus de 700 supporters. Et puis Carmelo Scarna, le président du club. On est avec Léo Marron, Olivier Fosseux, David Ducanois et Mathis Caron réunis ce soir. Et on accueille le coach. Salut Rachid Méziane.
Ah, salut Sylvain.
Bon, c'était comment le retour en jet privé depuis la Turquie? Vous avez quoi, 2 heures de vol?
On aurait aimé, peut-être en cas de victoire, mais malheureusement, ça ne nous a pas souri, donc on a eu droit à un charter.
Et voilà, long voyage, vous êtes parti quoi? À 1h du matin, c'est ça, en pleine nuit, arrivé à 15h à Villeneuve-d'Ascq?
Ouais, c'est ça, minuit et demi de Mersin, en bus pour rejoindre l'aéroport d'Adana, Adana, Francfort, Francfort-Paris, puis TGV pour rejoindre l'île Europe.
Bon, magnifique en tout cas, magnifique. Félicitations Rachid, à la fois pour cette place de finale. Après, je sais, forcément, vous êtes quelqu'un qui veut remporter les trophées. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de ce club, vous l'avez sauvé de la relégation. Mais voilà, vous voulez ce titre. Alors nous, on se dit tous, elle est magnifique cette deuxième place, c'est un magnifique cadeau, c'est une belle récompense. Mais malheureusement, au bout, il y a la déception d'avoir perdu une finale, j'imagine.
Ouais, il y a énormément de déceptions parce qu'on avait beaucoup d'ambition quand on a joué ce tournoi, ce Final Four avec beaucoup d'ambition. Avec un peu de recul, là, je commence à avoir un sentiment assez mitigé et très particulier d'ailleurs parce que je suis à la fois déçu et frustré de pas avoir livré le meilleur match possible pour se donner plus de chances de le remporter, mais en même temps beaucoup de fierté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour moi d'être à la fois déçu, frustré, mais en même temps fier.
Voilà. Léo, pour François, on en parlait un peu avant, on s'est dit vraiment, voilà, le SBVA a lutté et puis à un moment, bah, y a quand même une équipe en face qui est composée de joueuses assez incroyables et ça a fait la différence et ça a été compliqué de suivre le rythme.
Ouais, c'est ça, notamment la joueuse belge dont on parlait, Missman, qui a été élue, je crois, meilleure joueuse
de l'Euroleague,
cette année. Et moi, la question que je voulais vous poser, Rachid Méziane, c'est est-ce que, vu du bord du parquet, est-ce que vraiment les Turcs, elles étaient dans une autre dimension tout à fait quasiment injouable? Est-ce que c'est un autre basket qui est joué là où c'était prenable et vous avez en ce sens un petit peu des regrets sur le match?
Je pense que sur un match tout est possible et je pense que cette équipe était prenable dans la mesure où il fallait livrer la meilleure version de soi-même et malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors, il y a quand même des joueuses de talent, vous avez cité Emma Messman que je connais très bien parce que j'ai la chance de l'avoir en équipe nationale. Il y a quand même d'autres joueuses qui ont quand même bien impacté aussi sur la partie, comme Collier, comme Anderson, Milic et McBride et voilà, donc forcément, il y a beaucoup là, de déception de pas avoir vraiment joué notre meilleur basket. Je pense que même défensivement, c'est l'une de nos plus mauvaises sorties. Après, quand on compare les puissances économiques, la logique a été respectée quand même.
Ouais, c'est vraiment David contre Goliath, hein, Olivier Fosseux. Et il faut louer quand même le travail aujourd'hui qui est réalisé par Rachid, mais il y a aussi Christophe Vitou, le manager général derrière. Il y a le président Scarna qui sont là depuis des années. Mmh. Et ils se bagarrent contre vents et marées pour emmener haut ce club. Et il faut aussi féliciter la MEL, la ville de Villeneuve-d'Ascq, qui accompagne le club aujourd'hui.
Ouais, c'est une machine qui s'est huilée au fur et à mesure devient une vraie machine à gagner. Et je voulais demander à Rachid, c'est comment ces joueuses ont pris cet événement? Est-ce que c'est peut-être à cause de l'importance de l'événement qu'elles ont un peu déjoué?
Certainement, oui. C'était pour 90% de l'effectif une première. Déjà de pouvoir faire l'Euroleague, de pouvoir se qualifier sur un Final Four et donc encore moins de participer à une finale. Seul le Chavonte Zelous avait eu la chance de pouvoir participer à déjà trois Final Four deux Final Four et l'avoir remporté une fois. Donc forcément, je pense qu'on a en termes de émotionnel, on a manqué un petit peu de solidité. On l'a vu un peu dès le début de match. On a eu une espèce de premier round d'observation. Je pense qu'après on est plutôt bien revenu dans la partie. Et après, le fait d'avoir laissé beaucoup d'énergie sur la demi-finale, parce qu'il fallait déjà renverser un ogre qui est Prague. On a manqué de fraîcheur pour faire preuve de consistance, au moins dans l'intensité, quoi.
David Duquesnoy, moi, Rachid Méziane, il me fait penser à un coach qu'on connaît bien. Il me fait penser un peu à Francaise. Mmh. C'est un bâtisseur. Ouais, ça le fait sourire. Il a déjà discuté avec Francaise.
Ça me fait rire parce que je l'ai au téléphone
quand ça devient important, là. Alors, on se dit, là, il va se passer un truc, là. Là
Francaise et ça coupe, c'est pas possible.
On va reconnecter avec Rachid Méziane. Mais voilà, c'est un bâtisseur qui prend. Ah, Rachid, il faut nous raconter la discussion avec Francaise, alors. Alors, comment va Franck?
Non, c'est confidentiel.
Mais David, avant de redonner la parole à Rachid sur ce sujet, voilà, on a un bâtisseur.
C'est-à-dire quand Rachid, je suis là, je suis avec vous. Hein.
Parfait. Oui, il y a un petit décalage en fait, Rachid. David, donc avant de redonner la parole à Rachid, c'est un bâtisseur. Il est arrivé en 2019. Le club est au bord de la relégation. Il construit pierre à pierre. Il construit son effectif, des Américaines, des Françaises. Le sommet du championnat, une finale de championnat et aujourd'hui une finale de Euroleague. C'est beau de construire ainsi.
Ouais, tout ce qui est plaisant dans le rôle de coach, c'est quand on peut construire, on peut nous laisser le temps aussi de construire parce que parfois au bout d'une saison, on vous dit stop et là on entend il y a eu presque une relégation, finalement on se sauve et puis après on construit. C'est ce qui s'est passé aussi avec Francaise, donc vous voyez que c'est un beau parallèle et puis je pense que ça doit être génial quand même de vivre des moments des finales européennes pour n'importe quel sport, en tout cas moi qui suis pas un spécialiste du basket, j'ai suivi avec attention ce qui s'y passait parce que c'est la région et puis et puis c'était en tout cas c'est une grande fierté pour nous ici nordistes de voir les filles comme ça briller en Europe quoi. En tout cas bravo coach pour tout ça. Et puis je pense que effectivement je sais pas si merci. C'est l'inexpérience qui a joué, mais il y a eu un déclencheur à un moment donné dans le match. On sent que le Fenerbahçe, elles ont pas relâché et puis on sent que au niveau l'USBVA, c'est un petit peu, on sentait qu'il y avait une petite je sais pas, ça se sentait en tout cas nous devant la télé que il y avait une petite diff qui était en train de se créer.
Vous êtes un incroyable bâtisseur, hein, vous le confirmez Rachid. Hein.
Ouais, c'est comme ça que j'aime me qualifier. En effet, je suis pas le coach, même si certainement ça doit faire partie de nos cordes, mais je suis pas là pour faire du one shot. Moi, j'aime bien construire, bâtir, recruter des prospects, puis les développer, inscrire un peu tout ça dans un process de bâtisseur. Ouais, c'est en tout cas c'est comme ça qu'on peut performer, qu'on peut pérenniser justement les performances.
Ouais, je pense à Janelle Salin qui s'est construite à l'ESBVA avec Rachid. Et puis il y a deux jeunes qui montent derrière, Aminata Gueye qui est arrivée de Toulouse, qui est en train de monter. Puis il y a Maya Hirsch qui a déjà été bien draftée par la WNBA, qui revient de blessure et qui fera le bonheur très très vite de l'ESBVA. Léo Maron.
Oui, en parlant de bâtisseurs, moi je pense aussi à Frédéric Dussard qui a été coach jusqu'en 2019 de l'ESBVA. On l'a croisé hier au Palatium. Mm-hmm. Il est coach en Belgique aujourd'hui. Pour la petite anecdote, il a pris sa voiture dès la fin du match en Belgique et il a foncer au Palatium pour arriver et voir la deuxième partie du match. Et je voulais vous poser une question à ce sujet. Rachid, est-ce que vous avez parfois, lui il a initié un projet aussi à un moment donné, est-ce que vous avez parfois des échanges avec lui au sujet de l'équipe ou pas du tout? Parce qu'on sait qu'il reste très attaché à l'USB Béa.
Alors des échanges concernant l'équipe, non, pas spécialement, parce que bon, je pense qu'on a chacun nos chats à fouetter, lui en Belgique et moi ici à Villeneuve-d'Ascq. Après on a des échanges assez réguliers sur des avis des fois donnés sur des joueuses que j'ai pu coacher ou que lui a pu coacher. On est en bon terme avec Fred. Voilà, après nos échanges, voilà, ils concernent pas réellement on va dire les états de son équipe ou de la mienne, mais bien entendu quand j'ai pris la succession de Fred, j'ai eu des longs échanges avec lui pour apprendre aussi à connaître le club que lui connaît très bien. Et quand vous me dites que Fred il est passé quand il est passé au Palatium nous encourager, c'est bien le synonyme que il y a certaines valeurs au niveau de l'USBVL, mais ça c'est quelque chose qu'il faut souligner et apprécier.
Ouais, mais bon, maintenant il faut être championne de France, hein, Rachid, là c'est bon, quart de finale ce week-end, là vous n'avez pas le choix. Non mais là vous n'avez pas le choix, le titre en fin de saison, là vous avez la pression en revanche, hein.
Oui, bah après on a envie de bonifier notre saison. On a la chance d'avoir l'avantage du terrain jusque la finale si on y accède en finissant premier de la saison régulière. Donc c'est vrai que c'était un objectif qu'on s'est mis en tête à partir de janvier. Donc j'espère que voilà, on va pouvoir bonifier tout ça. On a tout un public, j'allais dire un peuple dans le Nord à satisfaire. Et
merci Rachid, merci en tout cas, merci d'être passé ce soir. Je sais
avec
que
plaisir.
C'est un cadeau que vous nous faites parce que voilà, on est rentré tard.
Ouais, et c'est nuit blanche et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me reposer parce que vendredi on est déjà à jouer notre match aller du quart de finale de playoff.
Profitez de la famille Rachid.
En ce qui
Rachid,
concerne
surtout.
Francaise, si nous écoute, voilà, c'est joyeux anniversaire à toi Franck.
Ah, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Francaise.
Oui,
ça lui fait quoi, 52
53.
Et ben le message est passé. Merci Monsieur Méziane, merci le boss.
Avec plaisir Sylvain.
Rachid Méziane, le coach de l'ESBV, vice-championne d'Europe et future championne de France.
Tribune Nord, le buzz des réseaux.
Hey, le buzz des réseaux avec Léo Marron, Olivier Fosseux, David Duquesnoy et Mathis Caron, c'est cette prolongation de contrat de Facundo Medina jusqu'en 2028. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il va rester au club? Olivier Fosseux, ça veut dire quoi quand on prolonge aussi longtemps?
Ça veut dire qu'on est mieux payé.
Ah, c'est juste un meilleur salaire en fait. Ouais.
C'est pas ça. On est mieux payé, mais on envoie aussi un message. Je pense aussi à ceux qui aiment bien Facundo pour dire ben voilà, il y a une énorme possibilité pour qu'il reste. Mais moi, j'ai par petite expérience. En football, je ne m'aventure plus à dire jusqu'au 1er septembre, ce joueur sera là dans l'effectif. J'ai déjà vu des choses assez incroyables. Donc après là, il y a 4 ans de contrat à racheter quand même maintenant. Donc ça devient tout de suite du gagnant-gagnant si jamais il y a un club qui vient prendre la température, on va dire.
Ouais, parce que Facundo Medina peut se dire aussi, Mathis Caron, qu'il fait un cadeau au Racing en disant bah voilà, vous me laissez un bon de sortie un moment ou un autre, mais comme on prolonge, bah voilà, ça va vous rapporter plus.
C'est sûr, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même pour le RC Lens. Déjà, ça montre quand même une certaine ambition et ça montre qu'ils sont capables de garder des joueurs comme ça. Après, à voir aussi en fonction de comment se termine la saison, est-ce qu'il y aura une Coupe d'Europe ou pas. On en parlait tout à l'heure, Lens peut encore tout perdre. Et c'est vrai que les prolongations, ça va pas toujours tout dire, mais c'est quand même bon signe. On imagine qu'un club va pas se positionner pour acheter 4 ans de contrat tout de suite cet été, on espère en tout cas. Et on peut se demander aussi ce que ça veut dire pour le reste de la défense. Peut-être que ça veut dire que Kevin Danso aura un bon de sortie, lui à l'inverse.
Oui, c'est vrai que ça peut aussi vouloir dire ça, parce que le Racing Club de Lens nous a habitués aussi à ne pas laisser partir quantité de joueurs, David Duquesnoy.
Ouais, non, moi c'est le vrai message, c'était celui-ci effectivement, c'est que si on prolonge Facundo Medina, c'est que potentiellement sur les autres joueurs, Je pense plutôt effectivement à Kevin Danso, parce que je pense que Jonathan Grady n'a pas envie de partir. Il aime trop le Racing Club de Lens pour ça, je pense. Donc Kevin Danso, et on en parle beaucoup là en ce moment, le Milan AC, on entend, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc effectivement, je pense que la prolongation de Facundo Medina montre que pas cette année, effectivement, on l'aura, je pense, encore une saison. Après, depuis
vous êtes optimiste, vous?
Ouais. Pour cette saison, ouais. Autant qu'après, depuis Seco Fofana, je me méfie maintenant.
Ah, bah oui, bien sûr.
On le prolonge,
oui.
On le vend l'année d'après. Mais Medina, ce serait peut-être pour une saison. Et puis, effectivement, ça montre la valeur marchande aussi du joueur. Et puis, ça montre aux autres. Et puis, je pense à tous les supporters aussi que, on a envie quand même de garder nos cadres. Et je pense aussi à Brice Samba, parce qu'il peut aussi faire partie des joueurs qui intéressent des clubs européens. Donc, c'est une bonne chose à l'instant T. Après, de voir la réelle, le pourquoi il a signé, on le verra pour la suite. mais en tout cas, là, à l'instant T, je me dis que c'est un beau message. Et puis, on verra dans un an si on a le même discours.
Léo?
Ouais, en tout cas, au niveau, y a un truc moi qui m'a frappé, c'est au niveau de la communication du club. Moi personnellement, j'ai appris cette prolongation sur les réseaux sociaux, sur Twitter X, et je crois qu'ils ont mis un post en disant c'est logique, etc. Et ça montre toute l'importance qu'a pris depuis 2020 Facundo Medina et son arrivée au club. Et donc
Il faut qu'il incarne le club.
Ouais, et puis faire ce genre de post sur les réseaux sociaux pour un club comme Lens, je pense qu'il y a quelque chose d'assez sincère derrière. Et,
on espère.
C'est bon signe pour sur le fait qu'il reste.
Oui, parce qu'on lui passe aussi peut-être le message, Olivier, de dire ok, on te prolonge. En gros, tu seras le patron de notre défense dans les prochaines saisons.
C'est une option. Mais je suis d'accord avec vous. C'est par rapport au fait qu'il va encore rester un an, à mon avis. Avec 4 ans de contrat, c'est...
Oui, mais si on vient avec 40, là, cet été, bon, 40 pour un défenseur, c'est
beaucoup. Ah, mais dans ce cas-là, 40 pour un défenseur, c'est beaucoup.
Ouais.
Surtout...
moins performant.
Il n'a pas 18 ans.
Non.
Vous voyez ce que je veux dire.
Bon, on va suivre ce dossier pendant tout l'été, et on en reparlera, bien entendu, au 1er septembre, à la clôture du marché des transferts.
Tribune Nord, toute l'actualité de la Ligue 2, en direct sur France Bleu Nord, Sylvain Charlet.
Alors, c'est terminé malheureusement pour Valenciennes, qui descend en national, saison cauchemar. En revanche, Dunkerque y croit toujours, même si Dunkerque a été battu par Guingamp. Dunkerque a été battu 2-0. Dunkerque est 15 et 16e avec 3 points d'avance sur 3. On reste sur 3 matchs sans victoire. Et on est avec la pépite dunkerquoise, Monsieur Bardelli. Salut Enzo, bienvenue.
Bonsoir, c'est bien, vous allez bien?
Très bien, et vous Enzo?
Ça va.
Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous sortez de la zone de relégation et hop, 3 matchs, on se croit arrivé? Je plaisante un peu, je suis un peu... Je titille. Qu'est-ce qui se passe, Enzo?
Pas de soucis. Oui, c'est vrai que depuis 3 matchs, au niveau des résultats, on est un peu moins bien. On a fait cette belle série qui nous a permis de croire au maintien et de sortir de cette zone. Et puis oui, là, il y a les 3 matchs. Je pense qu'à Bastia, on mérite mieux. On mérite peut-être même la victoire. Et Guingamp-Annecy, on passe clairement à côté de notre match. Donc oui, là, on se met un peu le feu, mais ça va nous permettre de nous remettre la tête un peu à l'endroit et de vraiment se consacrer au maintien. À 100%.
En tout cas, Mathis Caron, Enzo, c'est vraiment l'une des révélations de la saison. On rappelle qu'il a été formé au LOSC, Enzo.
C'est sûr. Oui, c'est ça.
C'est sûr que c'est une bonne école, et puis c'est sa première saison complète en Ligue 2, si je ne me trompe pas.
Oui. Première vraie saison installée en titulaire, hein, Enzo. C'est ça l'idée. Hein. Cette saison, oui, vraiment titulaire.
Donc je trouve qu'il affiche un niveau vraiment impressionnant par rapport, et de maturité aussi par rapport à son âge et son expérience. Il me semble que l'année dernière il joue même pas une dizaine de matchs, alors que cette année il joue une saison quasi complète, et il a déjà un rôle de leader, je trouve, que ce soit dans l'attitude et dans le niveau. Et à son âge, je trouve ça assez impressionnant quand même.
Oui, Enzo, quel âge? 22 ans, c'est ça?
Oui, je viens d'avoir 23 ans là.
Ah, bah bon anniversaire, c'est la soirée des anniversaires, c'était quand?
C'était le 11 avril.
Ah ok, bah oui, c'était le jour de Lille Aston Villa.
Voilà.
Exactement. Enzo, ouais, vous avez vraiment l'impression, en effet, d'avoir pris de l'ampleur. Qu'est-ce qui a changé chez vous, dans votre jeu et humainement parlant, pour être aujourd'hui un joueur incontournable à Dunkerque?
Je pense que c'est vraiment la confiance que j'ai de la nouvelle direction et aussi du nouveau coach. Je me suis senti vraiment mis en valeur. Je joue à un poste que j'aime beaucoup. Sous l'attaquant, où je suis assez libre, en fait, c'est les consignes du coach. Donc je me sens vraiment bien. Je sens que j'ai la confiance aussi de l'équipe. Donc c'est ce qui me permet de pouvoir être bon cette année, quoi.
Belle génération quand même, hein. Enzo Bardelli, Olivier Fosseux qui suivaient le LOSC, parce que dans sa génération, bah, il y a notamment Alexis Flips qu'on a vu briller à Reims, et il y a un certain Lucas Chevalier.
Alexis, je crois qu'il est parti en Belgique là, il est continué, il est joué.
Oui, Anderlecht, oui. C'est ça.
Ouais. Ouais. Et ouais, effectivement, c'est bien qu'il ait pas arrêté le foot, j'ai envie de dire, ouais. Parce que voilà, ça fait parfois la partie de la vie d'une carrière, de devoir peut-être reculer d'un cran pour mieux rebondir, et puis à son âge, il a encore plein de choses à prouver. Dunkerque, c'est très bien. Si Dunkerque pouvait se maintenir, ça serait encore mieux, parce que la Ligue 2, c'est un très très bon championnat, ouais. pour se montrer, ouais. Et s'aguerrir.
Enzo, vous avez vraiment, enfin non, vous n'avez pas pensé à arrêter le foot, mais ça a été dur, j'imagine, après le LOSC.
Oui, c'est clair. J'avais fait de 10 années au LOSC.
Ah oui. 10 ans.
Ah oui. Ouais, en fait, je suis parti à 10 ans jusqu'à mes 20 ans. Ouais. Donc voilà, pendant 10 ans. Et puis oui, c'est dur à la fin quand ça s'arrête, parce que je me sentais très bien là-bas, mes performances étaient plutôt bonnes. Après, il y a eu les 2 années Covid qui ont pas aidé, parce que j'avais pas de match en National 3 dans le monde adulte. Donc pour retrouver un club, les clubs se demandaient comment j'allais être dans le monde adulte, surtout que mon physique pouvait un peu les contrarier. Donc oui.
Ah, vous faites pas 2m10, vous. Vous êtes pas Wembanyama, vous.
Non, je suis loin de 2m10. Mais
même plus long que ça, Wembanyama, je crois.
ça a pas été simple après cette période à Lille, et puis je me suis retrouvé peut-être 3-4 mois au chômage.
Ah oui, quand même.
À m'entraîner seul ou dans la salle de sport, donc ça n'a pas été simple. Mais j'avais la chance de connaître le recruteur de Dunkerque à cette époque, c'était Salomon Kachala, qui m'a proposé de venir au moins m'entraîner pour garder du rythme avec une équipe et un groupe, car c'est différent de s'entraîner tout seul, c'est moins motivant, c'est compliqué. Et puis c'était l'année de Dunkerque où ils étaient en Ligue 2, ça allait pas trop. Et le coach Rivelli a fait appel à moi et j'ai réussi à saisir l'opportunité, quoi.
On se répète semaine après semaine, mois après mois, mais voilà, le sport de haut niveau, le football de haut niveau, David, vous avez connu ça, hein, à Lens. Ouais. Voilà, il faut savoir rebondir et savoir mettre de côté les déceptions.
Mais c'est le parallèle, il est incroyable avec Enzo, puisque moi j'ai été 12 ans au Racing Club de Lens, et on m'a dit au bout de 12 ans, merci. c'était juste un merci, hein, y a pas eu de plus, et forcément pas besoin. Et après, derrière, effectivement, bravo, parce que ne pas lâcher, j'ai connu exactement la même période de chômage, où j'ai pas de club, où là, les agents fuient, on n'est plus bankable, il y a plus personne, et on est là, on se retrouve au milieu d'un truc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille à ce moment-là, mais c'était très très compliqué. Et après, ben pareil, ne pas lâcher. Et là, on voit Kenzo train de prouver toutes les qualités qu'il avait. J'entends beaucoup le mot confiance, et ça, c'est incroyable. Tu l'as dit 5 ou 6 fois dans ta phrase, Enzo. C'était confiance du coach, confiance des coéquipiers, et je pense que parfois, il suffit juste de ça pour déclencher chez le joueur, toutes ses qualités, qu'il a enfouies en lui, parce que on le découvre là, mais il a ses qualités, il les a depuis toujours.
Bien sûr.
Et donc en tout cas,
c'est
bravo
pour ça qu'il
Enzo,
était au LOSC,
pour cette bascule là, et il faut pas lâcher, ça c'est important. Et ça, c'est quand j'entends des parcours comme ça, moi ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a pas de parcours linéaire dans le foot professionnel. Il y a aucun parcours décrit, et si on veut l'écrire soi-même, on peut le faire.
Il sera au jeu, il a été présélectionné pour les Jeux. Enzo, bon, il y a de la concurrence, mais ce serait énorme d'aller au jeu.
Il y a beaucoup de concurrence. Après, ouais, je suis dans la pré-liste, il y a la liste définitive au mois de mai. Je pense que ma chance pour pouvoir y être, c'est que les clubs ne libèrent pas tous leurs joueurs. Mais après, je me concentre vraiment sur ma saison à Dunkerque, sur le maintien. Ça va être encore long cette fin de saison. Mais oui, ça serait vraiment une magnifique surprise. Et si ça vient, tant mieux. Mais je me focalise pas vraiment sur ça, quoi.
Merci Enzo, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir.
Non, merci à vous.
On vous souhaite le maintien et puis les jeux et une prolongation à Dunkerque. Vous êtes en fin de contrat. Hein.
Non, il me reste. Il reste 2 ans après ça.
Ah, bah ça va. Ouais, je suis passé à côté. J'ai mal lu ma fiche. Bon, super Enzo. Très très bonne nouvelle. Et bon, à très bientôt. Cas, Enzo Bardelli, notre invité ce soir dans Tribune Nord. Allez, on conclut avec le quiz.
Tribune Nord, le quiz de la semaine.
Alors, je vais commencer par une question sur le Racing Club de Lens. Quel Lensois fait son retour dans le 11 de départ vendredi après 5 mois d'absence?
Machado.
Oh, il a commenté le match. Les buteurs d'Aston Villa face à Arsenal hier.
Watkins et le deuxième.
Et tu es au match ou pas? Pas facile, c'est un joueur de couloir.
Contre ça?
Non,
c'est Bailey.
C'est Bailey, pas mal. Dunkerque était privé d'un joueur majeur samedi, face à Guingamp, attaquant.
Courté.
Expérimenté, en effet. Café Ahmed Kantari après seulement 25 minutes à Valenciennes.
Il a sorti trois joueurs.
Combien de buts pour Sedou Guirassy, l'ancien Lillois avec Stuttgart, après 25 matchs de championnat? Allez, tentez votre chance, 23. C'est énorme.
30?
C'est plus, un peu moins.
28.
27.
Wow.
Allez, une petite dernière. Où entraîne aujourd'hui Jean-Guy Wallem?
Stade Bétuna.
Exactement. Et ça cartonne, hein?
Ouais. Ouais, ils sont premiers, viennent de battre Tourcoing.
2-1.
Ouais, 2-1.
Tourcoing qui n'avait pas encore perdu. Bah, merci à vous tous. David Duquesnoy, le ballon Kipsa Décathlon. Le test demain, Paris FC.
Ouais, c'est ça.
Et après, encore dans la semaine?
Après Strasbourg, après Nice, et on finit avec l'Olympique Lyonnais.
Vous avez une vie, vous?
Ouais, c'est difficile.
Bon, laissez-nous des ballons là avant de partir. On en fera encore gagner la semaine prochaine.
Ah ben, et jusqu'à la fin de saison.
Le gagnant du jeu, c'est Frédéric de Grenay. On le félicite. Olivier Fosse, merci.
Merci, bonne semaine. Voilà.
Merci. Léo Marron, merci.
Merci.
Et
à vous.
Merci pour cette première. Hein. Ça a dribblé beaucoup. Comme Enzo Bardelli.
Ouais, c'est ça.
Salut à tous, bonne soirée à l'écoute de France Bleu Nord.
Tout le sport du Nord et du Pas-de-Calais, c'est sur France Bleu Nord.